Alors, je sais pas ce que ça évoque pour vous, le gospel. Peut-être l'esclavage, peut-être la joie, peut-être plein de choses. En tout cas, le gospel, vous savez, si on en donne une définition, gospel veut dire évangile, mais veut dire quelque chose d'un petit peu particulier, veut dire parole d'évangile. Parole d'évangile, vous savez. Alors, Alissa me confirmera ou pas, j'espère qu'elle me confirmera, mais si je dis « it's not gospel », ça veut dire « c'est pas parole d'évangile ». J'ai bon ou pas, Alissa? S'il vous plaît, on applaudit. Non, parce que Franck qui dit quelque chose de correct en anglais, ça s'applaudit, je vous le dis, moi. It's not gospel ne veut dire ça n'est pas parole d'évangile. Et alors là, on va dire l'inverse, on va dire gospel, parole d'évangile. Et vous savez, quand on dit parole d'évangile, bon, on vit quand même des périodes un peu troublées. Alors évidemment, je ne vais pas entrer dans le débat, surtout pas. Mais vous savez, quand la parole de certaines personnes n'est plus audible, quand la parole du politique a des problèmes à être comprise, etc., et qu'en face, on met la parole d'évangile, eh bien, ça change tout. Et je vous prie de croire que ce matin, on va déclarer une parole d'évangile, on va déclarer une vérité, on va déclarer quelque chose de puissant, parce que nous croyons que le Créateur a cette parole pour chacun d'entre nous ce matin. Alors oui, vous êtes au bon endroit, parce que ce matin, vous allez entendre de la vérité. Ce matin, vous allez entendre une parole puissante. Et alors, on va avoir un culte, une matinée très spéciale avec la chorale du CMLK. Je vous demande de l'accueillir quand même. Alors, vous avez vu que c'est intergénérationnel, hein? Ok ou pas? Hein? Je ne vais pas dire même immarité de venir nous voir, mais... Ok? C'est beau, hein? C'est beau. Vous voyez qu'on peut faire des choses. Ça va, Sarah? Tu stresses pas trop? Tu stresses pas trop, toi? Ça va, non? Bon. Et alors, ce matin, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir un temps de chant, tous ensemble. On va avoir de la louange. Ce qu'on appelle la louange chez nous, c'est simplement déclarer notre amour à Dieu. Et le gospel, c'est un peu ça, hein? C'est déclarer que sa parole pour nous, elle est importante. Parole d'évangile. Et on va avoir un temps très particulier, parce qu'on va avoir un temps de présentation de deux enfants, deux magnifiques enfants. Manon, qu'on peut applaudir par avance. Et Thomas, on peut même l'applaudir. Ouais. Avec la batterie derrière, ça fait très cirque, hein. Voilà, et donc... Eh bien, sur ces enfants, quel est le lien entre le gospel et les enfants? Eh bien, c'est que mes amis, on va déclarer une parole d'évangile sur eux tout à l'heure. On va déclarer une parole de bénédiction. Et croyez-moi, quand on déclare une parole de bénédiction de la part du Créateur, eh bien, ça change tout. Il y a quelque chose qui se produit, il y a un accompagnement très très particulier, et c'est ce qu'on va vivre dans ce culte. Alors, il y a une vraie cohérence ce matin à vivre tous ensemble ce temps de gospel. Alors, qui dit gospel, dit pas assis, hein, honnêtement. Non? Alors soit on vit le gospel en bon français, là, et puis on écoute, on réfléchit, on intellectualise, soit on le vit un peu plus dans les tripes, et je vous propose qu'on se lève, qu'on tape des mains, qu'on chante, qu'on écoute si on a envie d'écouter. Mais en tout cas, soyons libres ce matin, c'est un temps particulier où on va dire de belles choses et on va passer un temps de joie tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Ceux qui sont prêts, lèvent la main. Excusez-moi, je suis un peu lourd là-dessus, mais j'ai besoin de vous sentir avec nous, là. Est-ce que vous êtes vraiment prêts, là? Oh, je vois des mains pas levées, là. Hein? Oh, oh. Est-ce qu'on est prêts? Alors, vous savez ce qu'on va faire si on est prêt, là? On va checker la main de son voisin, là. On va faire un petit check, là. Allez, on est prêts ou quoi, là? Oh. Yeah, yeah. On est prêts? Yeah. Hey, je vois pas de check, là. Allez. On check la main de son voisin. Est-ce qu'on est prêt à vivre ce culte de gospel, ouais ou non? Oui? Waouh! Allez, Benjamin, à vous de jouer.
Bonjour à tous, on va chanter Notre Père qui est aux cieux. Levez-vous, restez assis, tapez des mains, faites ce que vous voulez, on est en famille. C'est cool, on va s'amuser, merci.
Que ton nom sois sanctifié.
Sois sanctifié.
Que ton règne. Soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain.
Démange. Je vais faire un tout petit peu d'animation, vous me le pardonnerez. Crions de joie. Ok, on essaye. Crions de joie. Yeah, Sylvie, tu nous lances une farandole ou quoi? Allez.
Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos vies.
C'est là.
Crions de joie, car le fleuve est ici.
Encore.
Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici.
À la,
montagne. La présence du Seigneur et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans les enseignements.
Et
le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos vivres. Crions de joie. Crions de joie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu réjaillit nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici.
Seigneur, je t'exalterai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour m'a touché, ton immense amour m'a parlé. Je t'exalterai, Seigneur.
Je célébrerai, je chanterai.
l'immensité, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu vas sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu
Seigneur, tu es digne et je sais que rien ne pourra m'empêcher de te louer parce que tu m'as donné et tu m'as fait connaître ton amour. Rien ne pourra.
Je veux juste louer, tu as brisé. Je veux juste te louer. Rien ne pourra. Alors je revis, alors je lève les mains vers toi, mon roi, te louer en chaque circonstance. Oh, rien ne pourra. Tu as brisé. Rien ne pourra. Je veux juste te louer. Retenez, mais aujourd'hui j'ai compris. Alors je revis, alors je lève les mains vers toi, mon roi, te louer en chaque circonstance.
C'est bon de se réjouir ensemble comme ça. Oui, c'est bon de se réjouir ensemble. Et vous savez qu'au-delà de la réjouissance, on a dit des choses hyper, hyper importantes ce matin. Et on va continuer à dire des choses très, très importantes parce qu'un moment important du culte arrive, c'est la présentation des deux enfants. Et alors, galanterie oblige, on va commencer par la jeune fille. Alors, je vais appeler Frédéric Perrier, qui va présider à cette présentation, voilà, et voilà, le micro est à toi.
Merci. La présentation d'un enfant, c'est quelque chose de très joyeux, c'est pour ça qu'on a commencé dans la joie, et ce matin on va présenter la belle Manon, je vais l'inviter à venir, enfin, aider de son père quand même, accessoirement, et de Théo, de Nathan, de Stéphanie. Voilà. Alors, certaines familles, certaines églises ont une stratégie de croissance par l'évangélisation, d'autres par d'autres moyens. Bon, nous, on évangélise aussi, mais pas que. Donc voilà. Ouais, c'est sûr, il y a du monde. Alors, voilà, on va y arriver. Donc, Manon. Voilà. Manon, c'est dérivé de Myriam. C'est un nom qui est tiré de Myriam. Myriam, dans la parole de Dieu, ben, c'est quand même des gens importants. Hein. C'est la sœur de Moïse, c'est la mère de Jean-Baptiste, donc c'est pas rien. Et en plus, ça viendrait du mot, je vais mal le dire, Antoine, M-R-Y, comment on dit ? Non, M-R-Y, c'est... Ouais, mais bon, je pensais qu'il aurait l'accent, c'est raté. Merci Antoine, super. Ok, c'est aussi tiré de la myrne, et dans les deux cas, c'est un symbole de l'amour. Ça veut dire aimer. Donc c'est quand même, on sait qu'elle est aimée, donc déjà c'est formidable. Alors ses parents, ce matin, eh ben, ils ont décidé de présenter cette petite Manon devant le Seigneur, mais pas que. Ils ont aussi décidé de la présenter devant leur église, Et ça, c'est important. Parce que par cette présentation, vous savez, dans la vie chrétienne, on le répète, mais il faut encore le répéter, il y a des démonstrations publiques de notre foi. Le baptême, le mariage, mais aussi une présentation. On ne présente pas son enfant dans sa chambre un matin. Non, on le présente publiquement. Parce que on veut que l'Église, les frères et sœurs, le partagent. Et en même temps, c'est super engageant pour chacun de nous. Parce que Manon, ça veut dire que eux s'engagent, les parents, à l'élever dans la foi. Mais ça veut dire que nous, eh ben, on va s'en occuper aussi. On est participants. On est participants à travers les collectes, à travers l'enfance, à travers les exploits ou le futur nom qui aura, je ne sais pas, hein, moi je suis en retard, à travers même les jeunes adultes. Et quel est le rêve de chacun ici? Ben, un jour, enfin, je ne sais pas si je le verrai, c'est bizarre, eh ben, elle sera baptisée, Manon. Voilà, c'est ça. Et puis ça continuera, et ça continuera, et ça continuera. Hein, de génération en génération, à perpétuité. C'est vraiment ça, la parole de Dieu, et c'est aussi ça le sens de cette présentation. Donc voilà. Donc, c'est un engagement de Stéphane et de Stéphanie, et c'est un engagement de chacun de nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à vous lever, et puis on va prier pour cet enfant. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci de bénir Manon, merci de bénir Stéphane, bénir Stéphanie, bénir Nathan et bénir Théo, Seigneur Jésus. Merci parce que cet enfant, il te la porte et nous aussi, on te la remet, Seigneur Jésus. Merci pour l'engagement de chacun dans sa vie, maintenant et jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Merci parce que Manon, c'est ton enfant. Merci parce qu'un jour, elle va te connaître, Seigneur Jésus. C'est notre espérance. Et merci parce que tu veux le meilleur pour chacun de nous et tu veux le meilleur et tu bénis toute famille, Seigneur Jésus. En ton nom précieux, Père. Amen. Amen. Béni. Ça vous va ?
Voilà, et on va garder Manon et sa famille parce que la chorale a un petit cadeau, une bénédiction pour Manon. Voilà. Et alors, la petite Manon, elle a son pote qui arrive, Thomas, et David, Titou pour les intimes, nous rejoint, yeah. Voilà.
On va attendre les premiers concernés quand même, si vous voulez venir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux familles qui sont venues et aux amis de, de la famille Lacroix. Je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Ah, quelle joie de se retrouver ensemble pour la présentation de ce joli petit bébé, Thomas. Elle est belle cette famille, non ? Oh. Il y a moins de 3 ans, nous étions à cette même place pour Victoria, pour présenter Victoria, et le temps passe. Et là, nous partageons à nouveau ce moment spécial pour le petit frère. J'adore la vie de l'église, moi. Et je trouve que c'est tellement important de vivre pleinement ces moments clés pour une famille et en présence de toute l'assemblée. D'ailleurs, là, les jeunes, prenez-en de la graine. Parce que les Lacroix, 3 enfants. Les Sarkis, 3 enfants. Les Garcia, 3 enfants. Les Vernion, 4 enfants. Les Morin, mais là, c'est plus la même génération. 4, hein ? 5. Oh là là, les Nadal. Oh, excusez-moi, j'en oublie, il y en a tellement. Voilà. Bref, on vous a montré la voie. Hein. Là, il va falloir payer pour nos retraites, donc à votre tour. Hein. Voilà. Et comme toutes les mamans, Elisabeth, elle tenait avec beaucoup de précision la liste des noms potentiels. Vous savez, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait ça. Et je ne sais pas combien il y avait de noms dans la liste. Mais ce que je sais, c'est que Thomas, il y figurait déjà depuis un petit moment. Parce que Thomas, c'est un très joli prénom. Si on regarde son étymologie, on constate qu'il y a une origine hébraïque. Thomas veut dire jumeau. Et pour ceux qui connaissent bien la famille Lacroix, vous savez que Michael et Elisabeth sont passés par un temps très douloureux, en début de grossesse. Ils attendaient des jumeaux. Mais après quelques temps, le docteur a annoncé qu'un petit cœur s'était arrêté de battre. Et ça fait partie des choses, des fois, qu'on ne comprend pas. Mais on a discuté avec Elisabeth cette semaine et elle m'a confié que cette période de tristesse, elle est derrière elle, qu'elle a senti vraiment le soutien de Dieu dans ce temps et que la venue au monde de Thomas avait rempli le couple de joie. Bien entendu, je peux difficilement le cacher, mais j'ai aussi un petit faible pour le second prénom, que je trouve particulièrement bien choisi. David. David, le bien-aimé. Rien à dire, vous avez beaucoup de goût. Thomas, David, Lacroix, c'est la classe. Alors je vous propose de faire un petit flashback. Faisons un retour en arrière d'un an. On y revoit Michael et Elisabeth s'interroger sur leur avenir. Pardon. Donc pour Michael, c'était clair, 2 enfants, c'est pas assez, c'est pas encore une famille, tu m'étonnes, ils étaient 7, d'accord ? Attends, la maison, elle se prépare, il y a de la place, il n'y a pas de raison de s'arrêter à 2. On voit que c'est pas lui qui les porte. Hein. Pour Elisabeth, par contre, la démarche, elle est un peu différente, car elle a aussi envie de ce 3e enfant. Mais elle se rend compte que ce désir, il est accompagné de crainte, même un peu de peur, notamment sur la capacité à gérer un nouveau bébé, alors qu'on en a déjà 2 à la maison. Et puis, il y a un autre projet qui lui trotte dans la tête. Et ça pourrait peut-être être le bon moment de se lancer, une création d'entreprise. Monter son propre salon de thé et de pâtisserie fine. C'est vrai que je te vois vraiment bien là-dedans, hein, au plaisir d'Elisabeth. Un truc comme ça, ça peut le faire comme on a envie d'y aller, hein, non ? Donc, c'est un peu une période vague pour le couple, une période de questions, une période d'interrogations. Et un matin, de retour de l'école, Elisabeth reçoit un coup de fil. Un coup de téléphone d'Olivier Sarkis, pour ceux qui le connaissent, et qui lui dit « Écoute, ce matin, je priais pour toi. » Et j'ai eu cette phrase qui m'est venue « Pour ton projet, vas-y, fonce, n'aie pas peur. » Waouh, merci Seigneur pour cet encouragement, mais de quel projet tu parles ? Plus tard, Elisabeth a eu un flash. Elisabeth s'est rendue compte que le message, il avait été pourtant clair. Le seul projet qui lui faisait peur, c'était le fait d'avoir un enfant. Une autre petite anecdote, avant de prier pour Thomas. Quand elle était plus jeune, Elisabeth avait l'habitude de prier et de demander à Dieu une surprise pour son anniversaire. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et à plusieurs reprises, elle m'a dit qu'elle avait eu des réponses. Et cette année, alors que la vie, elle était bien chargée et qu'il serait difficile d'organiser quelque chose de spécial, elle a fait cette même prière. Le jour de son anniversaire, le 13 février arrive, rien du tout. Rien de spécial. Bon, ben, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Et jusqu'à ce que quelques semaines plus tard, le gynéco date le début de la grossesse. Vous avez une idée ? Le 13 février. Alors, frères et sœurs, faites attention quand vous demandez des surprises à Dieu. Surtout toi, chérie. Hein ? Et oui, le 13, c'est une date importante pour toi. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Mathieu, il est né, tu es né le 13, Mathieu le 13, Victoria le 13. Alors, ça aurait pu continuer pour la série avec Thomas, mais il est né le 2. le 2-11 de novembre. Alors pour les génies en maths qui sont dans cette chambre, si vous faites 11 plus 2, bien merci Sylvie, 11 plus 2 égale 13, on y est arrivé. Je savais qu'il y avait des bons ici, c'est bon. Vous savez, toutes ces dates, elles sont dans les mains de Dieu. Et c'est d'ailleurs le verset que vous avez choisi pour le faire part de naissance de Thomas. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'était le temps que notre Dieu souverain de toutes choses a choisi pour vous confier Thomas. 2018, c'est l'année que Dieu a choisi pour créer ce petit être. Il a aussi certainement une date pour le salon aux délices d'Élisabeth, mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pour nous, chrétiens, c'est une assurance formidable de savoir qu'il tient nos vies dans ses mains et qu'il a tout pouvoir sur le temps. Cette présentation, c'est l'occasion de remercier Dieu, c'est l'occasion de prier et de bénir Thomas, mais c'est aussi un temps pour associer l'Église dans la responsabilité de prendre soin de cet enfant. Bien sûr, il y a d'abord la responsabilité parentale de Michaël et Elisabeth, mais la famille spirituelle, elle aussi, elle est concernée. L'Église a aussi son rôle à jouer, comme l'a dit Fred tout à l'heure. Alors, je vais vous demander de vous lever aussi. Francis et Christine, si vous voulez venir aussi. Le parrain, la marraine, alors, je ne sais pas si tu peux te déplacer, mais Samuel, Juan, ouais. Voilà, les grands-parents, bien entendu.
Oui, Père, merci. Merci pour ce petit Thomas. Merci pour la révélation, Seigneur, de ton amour dans chacune de nos vies, en particulier dans la vie de Thomas. Seigneur, nous appelons ta bénédiction, cette bénédiction que tu as promise pour 1000 générations sur nos familles, les uns et les autres. Nous proclamons, Seigneur, cette bénédiction. Nous l'appelons et nous interdisons à qui que ce soit de briser cette bénédiction. Merci pour tout ce que tu vas faire pour Thomas, pour Michael, pour Elisabeth, pour Mathieu, pour Victoria. Seigneur, c'est toi qui règnes. Nous appelons ton règne, Seigneur, dans la vie de chacun. Merci, Jésus. Merci pour ton amour, ton sacrifice. À ton nom soit toute la gloire. Amen.
Alors moi ce matin, en pensant à ce moment de présentation, à cette bénédiction, j'avais un verset qui me venait sur le cœur dans Romains 8. Et c'est Paul qui pose la question, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations? Et on sait qu'il y en a eu au début de cette grossesse. Mais non, Paul répond, dit non, rien, ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et je prie maintenant pour Thomas. Et je proclame la bénédiction sur cet enfant. Et oui, je veux proclamer que rien, aucune tribulation ne pourra le séparer de l'amour de Dieu pour ce petit Thomas. Et aussi sur toute cette famille, sur ma sœur, mon beau-frère, les autres enfants dont on est aussi les parrains et la marraine. On veut proclamer la bénédiction. Amen.
Alors, on va rechanter.
Non, mais montez là, on vous voit quand même.
On va rechanter cette bénédiction qu'on a chantée. Et si vous voulez bien, on va la chanter deux fois, comme ça, deuxième fois, vous pourrez nous rejoindre. Hein, maintenant que vous l'avez déjà une fois dans l'oreille, vous l'aurez deux fois. Et on pourra la chanter ensemble la deuxième fois. Il y aura une petite transposition. Et là, vous attaquerez avec nous la deuxième fois, d'accord ?
Écoutez, moi, je vous propose qu'on applaudisse cette belle chorale. Et en même temps, on applaudit ces beaux enfants. C'est une manière pour nous de dire waouh, waouh, merci beaucoup. On va les retrouver tout à l'heure. Non, en fait, je me trompe, excusez-moi. Non, en fait, je vous garde encore un petit peu. Je vous garde encore un petit peu. Nous arrivons à un temps d'offrande. Alors, Kézako, c'est quoi une offrande? Alors, une offrande, vous savez que les églises en France sont autonomes. Elles ne sont pas financées par l'État. Et donc, ce sont les fidèles qui assurent le fonctionnement de l'église. Alors, en toute liberté, cette offrande est plutôt destinée aux gens de l'église. Donc, sentez-vous libre, mais vraiment, aucune obligation. Vous allez voir une boîte jaune passer devant vous. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien la laisser passer. Vous pouvez aussi donner. Et un élément important que... Alexis, est-ce qu'il est possible assez rapidement de mettre Marc 12, verset 41? Parce que je me suis fait piéger là par la connexion. Si tu avais ça, c'est bien, sinon c'est pas grave. Et simplement vous dire que, vous savez, quand on parle d'offrande dans la Bible, on ne parle surtout pas de montant. C'est pas mercantiliste, mais on parle de cœur. Et Jésus, à un moment donné, quelle réactivité, Alexis, cette petite histoire, quand Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, alors le tronc c'était l'endroit, la boîte où les gens mettaient leur offrande, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Ce n'est pas une affaire de montant, c'est une affaire de cœur. Et ce matin, eh bien, c'est nos cœurs qui sont appelés. C'est nos cœurs qui sont appelés simplement à l'œuvre de Dieu. Donc sentez-vous libre, la boîte va passer, et que nous vivions sur un chant, un beau chant, ce temps d'offrande. Voilà. L'équipe est prête? Ouais.
Et nous les donne chaque jour. Reçois nos pères, notre prière, leur reconnaissance et d'amour.
Toi qui dispenses de toutes choses.
Et nous les donne chaque jour. Reçois nos pères, notre prière, leur reconnaissance.
Alors, pour rester un peu gospel, je vais appeler le révérend Norbert. Bon, c'est une blague, hein, excusez-moi. Et qui va vraiment nous partager son cœur, partager la parole de Dieu. On l'encourage, ouais. On a une chance ce matin.
Les enfants sont appelés à l'enseignement donc, dans les salles qui leur sont réservées. Alors je l'ai échappé belle, hein. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Franck voulait à tout prix que je mette une toge ce matin, hein. Mais bon, j'ai dit, je ne veux pas me sentir dans un rôle. Hein. Voilà, donc me sentir au naturel avec vous, je crois que c'est mieux. Ça va, cette première partie était extrêmement géniale. Voilà, j'ai senti une espèce de communion qui passait entre la chorale et vous, dans les chants qui remerciaient le Seigneur, qui louaient le Seigneur, et ça, c'est, ça j'adore ça. Voilà, lorsqu'on ressent ensemble une communion vers le Seigneur. Alors, lorsque j'étais plus jeune, et oui, j'étais plus jeune, il n'y a pas longtemps, c'était hier, il y avait ce qu'on appelait le télégramme. Ça vous dit quelque chose, le télégramme? C'était l'ancêtre de nos messageries instantanées. Hein? C'était à une époque où il n'y avait ni réseaux sociaux, ni smartphone, ni Internet, ni SMS, ni MMS, etc., etc. Même pas un téléphone fixe dans chaque maison. Et le télégramme était le moyen le plus sûr et le plus rapide pour s'assurer que quelqu'un avait bien reçu un message, car le télégramme devait être remis en main propre à la personne à laquelle il était destiné. Alors, j'ai été télégraphiste. Eh oui, j'ai été télégraphiste. Ça a été mon second métier. Enfin, j'ai fait ça pendant 6 mois à peu près. Voilà. Et alors, il y avait 2 sortes de messages qu'on amenait. Alors, les messages de la semaine, c'était souvent des mauvaises nouvelles qu'on amenait. Des avis de décès, des avis d'huissier. Alors, en règle générale, la personne qui recevait le télégramme n'était pas très joyeux, et moi, je n'étais pas très joyeux parce que j'annonçais de mauvaises nouvelles. Et puis le samedi, alors parfois dans la semaine, bien sûr, il y avait des faire-part de naissance. Hein. On annonçait aux grands-parents que le bébé était né. Voilà, alors ça, c'était des bonnes nouvelles. Mais le samedi, c'était le jour des mariages, et j'amenais les bonnes nouvelles de félicitations. Et moi, j'étais content parce que je ressortais, j'avais des pourmangers. J'appelais ça des pourmangers, ce n'était pas des pourboires. Mais pour moi, ça arrondissait ma fin de mois. Donc le samedi, quand je travaillais, que j'amenais des messages de bonnes nouvelles de félicitations, j'avais quelque chose aussi qui me rendait heureux en même temps. Alors la Bible, elle dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors moi, pour moi, c'était énigmatique ce verset-là, jusqu'à ce que je comprenne qu'à l'époque, ils n'avaient pas des mobilettes jaunes. Ouais. Lorsqu'on faisait passer une annonce, eh bien, il fallait y aller à pied. Et ceux qui annonçaient de bonnes nouvelles, on disait « Oh pétard, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ». Alors, si on devait faire une traduction de ce verset à mon époque, lorsque j'avais 18 ans, on aurait pu dire « Quelles sont belles les mobilettes jaunes de ceux qui amènent les bonnes nouvelles ». Alors, ce matin, je voudrais vous parler de bonnes nouvelles. Nous sommes à un culte gospel, vous l'avez remarqué, et je voudrais vous parler du gospel. Alors, Franck nous a rappelé ce que veut dire le mot gospel, parole d'évangile. Le gospel, c'est la parole de l'évangile. La musique gospel, c'est une musique qui plonge ses racines dans l'évangile. C'est inséparable de l'évangile. Alors, peut-être le mot évangile ne fait pas beaucoup résonance en vous. Vous savez que peut-être l'évangile, c'est quelque chose qui est de l'ordre du religieux. On trouve ça dans la Bible. Mais le mot évangile, c'est la traduction lui-même d'un mot qui veut dire bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Alors, et ce matin, moi, je suis complètement dans ma vocation. Ma vocation, c'est de pas de chanter. Ma vocation, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, et puisque nous sommes dans la période de Noël, dans cette période que l'on appelle la période de l'Avent, je vous propose de lire juste un verset de l'Évangile, au chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, les versets 8 à 10, ça va être affiché. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans des champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, je vous annonce du gospel, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Alors, lorsque vous lisez ça pour la première fois, vous pensez à un conte pour enfants, n'est-ce pas? Mais je voudrais vous dire pourquoi je crois que l'événement que nous venons de lire a été un événement inscrit dans l'histoire des hommes. Et voici trois arguments, je ne vais pas développer, mais voici trois arguments. Celui qui a écrit ces paroles s'appelle Luc, et il était médecin. Et c'est-à-dire, c'était à l'époque où cela a été écrit, je dirais, l'homme de science, l'homme qui a l'art de la médecine, l'homme rationnel, n'est-ce pas? Second argument, Luc a fait une œuvre d'historien. Il n'a pas simplement dit des rumeurs. Il a été cherché auprès des témoins oculaires, et c'est ce qu'il annonce au premier chapitre de son évangile. Hein. Il a été interrogé, les témoins oculaires. Alors peut-être y avait-il encore, à l'époque de Luc, des vieux bergers qui se rappelaient l'événement. Et donc Luc a écrit sur son évangile ce que lui-même a reçu comme témoignage et témoignage oculaire. Troisième argument, pour ne pas croire que c'est simplement un conte pour enfants, n'est-ce pas? Croire au Dieu de la Bible, c'est croire à un Dieu qui intervient dans l'histoire humaine en général. Croire en un Dieu tout-puissant, eh bien, cela signifie que je peux croire que le Seigneur peut venir intervenir dans l'histoire des hommes. Je suis moi-même un témoin de son intervention dans ma propre vie. Et plusieurs dans cette assemblée pourraient témoigner aussi l'action de Dieu dans leur propre vie. Je ne suis pas pasteur par choix professionnel, je le suis par vocation, parce que Dieu m'a appelé à être ce que je suis. Il s'est manifesté à moi le 15 avril 1975 dans un jardin, et j'ai été témoin de son intervention dans ma propre vie. Et c'est extraordinaire. Alors voilà ce que je voudrais vous dire. Nous n'avons pas affaire, dans ce que nous avons lu, à un conte pour enfants, mais à un événement historique, unique. Alléluia ! Alors regardons de plus près le message de l'ange du Seigneur au berger. Je l'ai souligné, ne craignez pas, ne craignez point. Alors, les bergers sont effrayés, je peux comprendre, et nous pouvons les comprendre. Ce n'est pas tous les jours qu'un ange vienne visiter les hommes, n'est-ce pas? Hein? L'expérience a de quoi faire trembler, hein, même les plus courageux. Mais il me semble que le message de l'ange est vraiment plus profond. La crainte est un sentiment que tous les hommes partagent. Elle induit de nombreuses attitudes et de nombreuses actions. Nous connaissons la peur du lendemain. Nous connaissons la peur de manquer. Nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur des différences. Nous avons peur des étrangers. Nous avons peur de l'autre. Nous avons peur de la nuit. Nous avons peur de la maladie. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur des petites bêtes et d'autres phobies. Nous avons peur de l'angoisse, nous avons peur du stress. Alors je crois que la peur est un symptôme que nous connaissons tous, parce qu'elle met le doigt sur notre insécurité profonde dans ce monde, comme si nous étions sans cesse dans un environnement hostile, dans un monde divisé et brouillé. Et lorsque l'ange dit au berger, ne craignez pas, cette parole fait vraiment partie du gospel de Dieu, fait vraiment partie de la bonne nouvelle de Dieu. J'aime cette parole de David. David était berger, il est devenu roi en Israël, et il dit ceci, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous pouvez le répéter cela ? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est Jésus qui vient nous prendre dans ses bras et apaiser nos peurs et nos craintes, nous assurant de sa présence aimante. Lorsqu'un enfant a peur dans la nuit, un des parents vient le voir dans la chambre. Parfois, s'ils ne sont pas très patients, ils vont pousser une gueulante. Mais en règle générale, un des parents vient entourer l'enfant de ses bras, lui dit doucement, ne crains pas, je suis avec toi, tu n'as pas à avoir peur. Tant que je suis avec toi, tu n'as pas à avoir peur, tu ne crains rien. Regarde, il n'y a aucun danger qui te menace, rien ne pourra te faire du mal. Tu es avec papa, tu es avec maman. Et alors à ce moment-là, lorsque l'enfant se sent apaisé, il s'endort dans les bras de son père ou de sa mère. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le Dieu qui vient nous dire « Ne craignez pas, ne crains point, ne crains point. » La bonne nouvelle ensuite concerne une naissance qui nous concerne tous. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. En règle générale, la naissance d'un enfant, c'est une bonne nouvelle pour les parents. En règle générale. Et on a vu nos deux familles ce matin se réjouir de la naissance de ce don merveilleux qu'est l'enfant, n'est-ce pas ? Mais cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus, elle est pour tout un chacun. Elle est pour le monde. Il vous est né un sauveur. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? Un enfant qui vient de naître, c'est quelque chose de nouveau qui vient dans le monde. Quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait avant. Un enfant qui vient de naître, c'est une nouveauté dans le monde. Et qui dit nouveauté, dit aussi potentialité. Que vont devenir Manon et Thomas ? Que vont devenir ? En eux, déjà, le Seigneur sait ce qu'ils vont devenir. Il y a un potentiel. Peut-être ils seront des Jean-Sébastien Bach, peut-être des Einstein. Peut-être simplement des gens tout à fait ordinaires, mais qui apporteront, et ça je le crois parce que nous avons prié pour eux, qui apporteront la paix autour d'eux. Il y a une potentialité en eux. Vous connaissez cette fameuse blague de la maman juive qui présente ses enfants. Vous connaissez, j'ai sûrement dû la raconter. Hein, parce que bon, mon épouse est d'origine juive, voilà. Et donc cette maman juive présente ses deux enfants. 2 ans et 4 ans, il dit, tiens, voici le docteur et voici l'avocat. Hein ? Il nous est né un sauveur. Noël, c'est l'histoire d'un enfant qui nous est donné, mais qui porte en lui la potentialité du salut de chacun. N'est-ce pas extraordinaire ? Voilà ce qui nous a été donné. Jésus, bébé, Anthos, endosse l'humanité. Il va se développer comme un homme parfait, un connaisseur parfait de la nature humaine. Ayant été tenté comme tous les hommes en toutes choses, la Bible le dit toutefois, sans commettre de péché. Il ne vient pas à nous comme une grande, Dieu ne vient pas à nous comme une grande main qui viendrait du haut du ciel nous sortir de notre bourbier. Jésus ne s'est jamais présenté en maillot rouge avec une super cape. Hein ? Il est venu à nous comme un véritable homme, rempli de grâce et de gloire. Ses paroles font toujours tilt dans les cœurs des gens. Il vient nous révéler le Père. Il vient nous révéler la grâce du Père. Il vient nous révéler le pardon du Père. Jésus a été l'homme parfait sans péché. Enfant, il s'amusait avec ses amis. Adulte, il a ri avec ses amis. Il a pleuré avec ses amis. Il a posé la main sur le lépreux, celui que personne ne touchait. Il a rendu la dignité à une femme prostituée. Il a pardonné à l'adultère. Il a pleuré devant Jérusalem. Il a souffert. Il est mort, crucifié comme un criminel. Et à Pâques, nous fêtons sa résurrection, sa victoire sur la mort. Voilà tout ce qu'il y avait dans ce bébé, dans une crèche. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur, chacun d'entre nous. Allons plus loin dans notre réflexion, si vous voulez, sur la bonne nouvelle. Malheureusement, cette bonne nouvelle comporte un volet préalable qui semblerait négatif. Il vous est né un sauveur, c'est-à-dire, qui dit sauveur, dit besoin de salut. Qui dit sauveur, dit besoin de salut. Tout le monde n'a pas conscience d'avoir besoin d'un salut particulier. Et si je n'ai pas conscience que j'ai besoin d'un salut particulier, la bonne nouvelle de l'Évangile va me passer à côté. Prenons deux hommes, Bill Gates, au hasard. Il a une fortune estimée à 67 milliards de dollars. Imaginons le télégraphiste moyen, touche à peu près à peine le SMIC. On vient annoncer aux deux personnes, vous venez de gagner 10 000 euros. Qui va sauter de joie à votre avis? Le télégraphiste. Voilà. Bill Gates, il a des milliards. Lui dire qu'il a encore gagné quelque chose, qu'est-ce que c'est? Il gagne 10 000 euros peut-être en une seconde. Hein? Jésus le dit à sa manière, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. La bonne nouvelle du Sauveur s'adresse à tous ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un Sauveur. Une nuance quand même, tous les hommes ont besoin d'un Sauveur, même s'ils ne le savent pas qu'ils ont besoin d'un Sauveur. Les gens ne savent pas qu'ils ont besoin d'un Sauveur parce qu'ils ont développé des stratégies pour oublier la misère de leur cœur. Alors je n'ai pas le temps de développer cet aspect. Mais la plus facile des stratégies, quand même, c'est vieille comme le monde, pour échapper à la misère de son cœur, c'est d'accuser et de trouver un coupable qui ne soit pas soi-même. Si je suis malheureux, c'est à cause de mes parents. Si je suis plein de violence, c'est à cause de la société injuste. C'est à cause des migrants. C'est à cause de ceci ou à cause de cela. On demandait à Gilbert Keith Chesterton, c'est un écrivain, poète, journaliste anglais du début du XXe siècle, qui était très influent. On lui a posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas dans le monde? Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Savez-vous ce qu'il a répondu? Le seul problème dans le monde, c'est moi-même. C'est moi-même. Voilà un homme qui savait qu'il avait besoin d'un sauveur. Le cœur de l'homme est la source de tous les dérèglements et de toutes les injustices, croyez-moi. Les injustices sociales, ce n'est pas M. Macron qui les a inventées. Mettons un maillot jaune à la tête de notre gouvernement et nous verrons bien ce qui se passerait s'il ne tombe pas lui-même dans une injustice patente. Nous avons tous une idée de vouloir faire le bien et nous faisons le mal. Parce que nous n'avons pas le pouvoir de faire le bien. L'apôtre Paul, un des amis de Jésus-Christ, un homme qui a su qu'il avait besoin d'un sauveur, disait « Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. » C'est comme s'il y avait une loi à l'intérieur de moi qui m'obligeait à faire le mal. Cette loi, c'est ce qu'on appelle le péché à l'intérieur de nous. L'apôtre Paul, un homme qui savait qu'il avait besoin d'un sauveur. Jésus le Sauveur, le divin médecin, pose un diagnostic. C'est le cœur de l'homme qui est malade, c'est son cœur, son être intérieur qui est pourri, c'est son cœur qui doit être changé. Écoutons-le encore une fois, Jésus qui parle. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les meurtres. C'est du cœur que viennent les adultères. C'est du cœur que viennent les impudicités, c'est du cœur que viennent les vols, c'est du cœur que viennent les faux témoignages, c'est du cœur que viennent les calomnies. Chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Jésus, chers amis, chers frères et sœurs, est la bonne nouvelle. Jésus est le gospel dont nous avons besoin. Et je voudrais que simplement que nous baissions maintenant les yeux, chacun d'entre nous, et que nous écoutions encore Jésus qui nous parle et qui nous dit d'abord « Ne crains pas, parce que je veux enlever ta crainte. » Jésus dit « Je peux changer ton cœur. Ton cœur dur comme la pierre, je peux faire en sorte qu'il devienne un cœur de chair. Je veux guérir ta misère. Je veux te réconcilier avec moi, avec le monde, avec toi-même. Je veux enlever ton péché. Je veux bannir la crainte de ta vie. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Aujourd'hui est le jour de ton gospel. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour cette assemblée. Je te prie, Seigneur, parce que tu connais chacune des personnes qui sont là, qui ont été invitées, qui sont là par hasard. Seigneur Jésus, que la parole de l'Évangile, que ton gospel vienne et touche le cœur, comme tu sais le faire. Au-delà des paroles, au-delà de mes paroles, viens sauver encore aujourd'hui au milieu de nous. Et Seigneur, ton salut est accessible à celui qui ose simplement lever les yeux vers toi et qui te dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton salut. Et tu viens toucher les cœurs. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ce moment. Ensemble, à toi la gloire, Jésus, au milieu de nous. Amen. Soyez bénis. Profitez du gospel.
Merci beaucoup, Norbert. Merci beaucoup, ouais. On peut vraiment... Je vais demander à la chorale de me rejoindre. Et on va faire exceptionnellement une deuxième offrande dans une dynamique particulière, une dynamique d'entraide sociale. Vous savez qu'au sein de, enfin vous le savez ou pas, mais au sein de l'Église, une des missions, vous savez, de l'Église, c'est d'aider mais ceux qui en ont besoin. Et on veut collecter ce matin une offrande spécifique pour cette entraide sociale, qui bénéficie évidemment aux gens dans le besoin. Et deuxième axe de cette offrande, la soirée du cœur. Et peut-être je vais quand même demander à Fred de venir, s'il me permet. Bon, il n'était pas prévenu, mais il aime l'impro, Fred. Et il va nous parler, il va nous donner quelques éléments.
Ok, merci. Oui, donc, pour la soirée du cœur, vous êtes nombreux à participer. C'est une soirée qu'on fait chaque année, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est la 26e année, d'ailleurs, donc ça commence à faire. Et on accueille à peu près 600 personnes à manger. Et Voilà. Et cette offrande participe, puisque c'est à travers la pastorale des églises de Nîmes, et donc cette offrande va participer au budget global, qui est à peu près de 10 000 euros. Donc, et voilà. Et donc, on espère que vous serez généreux. Et puis j'en profite aussi pour demander s'il y a des personnes, il nous manque des personnes pour l'arrêt des bus, parce qu'ils ont changé le système, donc il nous faudra plus de personnes, il faudrait 3-4 personnes de plus, et aussi pour les enfants, ceux qui seraient intéressés. Voilà, venez nous voir à la fin, et puis soyez généreux, et en même temps, c'est pour l'entraide sociale, comme il a été dit, donc c'est pas... Voilà, c'est aussi pour les membres de notre église, pour aider dans les besoins. Voilà, soyez bénis. Amen.
Et on va accompagner cette offrande avec un chant qui dit « I will bless the Lord ». Je bénirai le Seigneur et je lui donnerai, rendrai gloire.